LIFT était une conférence au sujet des défis et des opportunités de la technologie dans notre société. J'y dis était, puisque cela s'est déroulé du 7 au 9 février. Mais nos auditeurs connaissaient déjà le sens et en même temps ce qui en a été discuté, puisque nous avions reçu, avant l'ouverture de la conférence, Laurent Haug et Nicolas Nova, qui en sont les initiateurs. Il s'agissait donc de parler des différentes applications, des effets des nouvelles technologies, tant dans les entreprises que dans notre vie quotidienne. Et cela a fait l'objet de débats parmi de nombreux participants. Je crois qu'ils étaient plus de 500. Bonjour Laurent Haug.
Bonjour.
Vous aviez plus de 500 participants qui étaient, pour dresser un profil, il y avait des chefs d'entreprise, des sociologues, des passionnés d'informatique.
En fait, il y avait donc plus de 500 personnes d'une trentaine de pays et des profils assez variés. C'est une des spécificités de LIFT, c'est que c'est pas du tout une conférence qui s'adresse aux informaticiens, c'est une conférence qui s'adresse à tous les gens qui essayent de comprendre que la technologie change dans nos quotidiens. Donc en effet, ça amène des profils extrêmement variés, des chercheurs, des étudiants, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Pas mal de gens des ONG, de toutes les organisations internationales. Et puis cette année, on a vu arriver aussi d'autres communautés. On a vu beaucoup arriver la communauté des futuristes, donc des gens qui font un peu de la prospective, qui essaient de comprendre de quoi sera fait l'avenir, ce qui a été un très bon signe pour nous. Et on a aussi vu pas mal arriver la communauté des investisseurs, donc de gens qui cherchent un peu les nouvelles idées aussi concrètes pour investir dedans. Donc c'est vrai qu'il y a un mélange qui est assez incroyable qui se fait comme ça entre plein de cultures, plein de nationalités, plein de niveaux sociaux, plein de générations. Et ça donne un brainstorm géant qui est assez passionnant à suivre et assez bouillonnant en fait.
C'est donc la deuxième édition. Et puis je crois que vous avez commencé donc l'année dernière avec peu de moyens. Et cette conférence est déjà connue. Vous venez de nous le dire avec le nombre de personnes qui se sont déplacées, même de très loin, pour y participer. C'est en fait une illustration des possibilités de l'Internet de pouvoir lancer une entreprise aussi importante sans véritablement une grosse mise de fonds.
Complètement, c'est l'illustration même de ces nouvelles possibilités offertes par les technologies. Donc LIFT est une conférence qui est organisée par email, où on arrive à mobiliser des gens absolument incroyables, à mon avis, des très grands entrepreneurs. Où, voilà, on a beaucoup parlé de la venue de cette bonne sœur qui s'occupe du site internet du Vatican, qui est quelqu'un qu'on a joint, que j'ai joint personnellement en appelant le Vatican tous les jours, jusqu'à ce que je puisse lui parler, lui expliquer le projet, etc. C'est vrai que maintenant, on dit toujours un peu le monde est plat, LIFT en est la parfaite illustration, où on arrive à mobiliser les gens, les intéresser à un projet, et aussi ensuite à s'asseoir la veille de la conférence dans un restaurant, on a juste dit ben, qu'on serait là, puis il y a des gens qui arrivent de Toronto, il y a des gens qui arrivent du Mexique, il y en a un qui arrive du Brésil, et le tout via parce qu'ils ont vu le site internet, et c'est assez fascinant comme phénomène.
Mais en même temps, donc, c'est toutes ces personnes qui ont participé, elles avaient, on peut dire, elles sont venues d'un côté parce que vous les avez contactées, parce qu'elles ont entendu parler de LIFT, et les contacts finalement se sont par email et en même temps par la consultation des sites web. N'y a-t-il pas un petit peu une disparition du contact humain dans cette organisation ?
Bah, la preuve, c'est que finalement, on se contacte tous par email et par site internet pour ensuite se voir en vrai. Donc, j'aurais jamais pu. Malheureusement, j'ai pas le budget pour faire le tour du monde et aller visiter des gens dans 30 pays et passer quelques heures avec 500 personnes. Donc, on crée cet événement en utilisant les moyens virtuels, mais le but étant de se voir parce que c'est clair que toutes ces technologies sociales sont très complémentaires. Elles sont en tout cas pas là pour remplacer, selon moi, le contact humain. On voit bien que finalement, LIFT, c'est un peu le pic de la vie d'une communauté. Donc il y a tous ces gens qui sont là, qui partagent un peu les mêmes valeurs, les mêmes idées, qui se voient à LIFT. Et en fait, les choses concrètes se passent à LIFT. C'est-à-dire que les gens se connaissent avant par email, mais c'est à LIFT qu'ils décident de lancer une entreprise ensemble. Ils avaient l'adresse email de l'un et de l'autre. Mais c'est suite à LIFT qui décide de créer un blog ou de faire les choses concrètes. Donc il y a vraiment besoin toujours de cet événement. Et puis il y a une richesse dans les relations humaines qui ne sera jamais remplacée par rien, par aucun outil. Donc moi, au contraire, je trouve que c'est magnifique qu'on ait ces outils parce qu'un événement comme LIFT qui amène tellement ne pourrait pas exister sans elle. Sans email, on n'aurait jamais pu faire LIFT.
Sans email, mais en même temps, donc, ces grandes conférences, ces grandes réunions, le savoir est déjà sur les sites web, c'est surtout une possibilité de se rencontrer.
C'est surtout ça, et je pense que le savoir n'est pas toujours disponible partout, il arrive structuré d'une façon différente, là donc on a tout un tas de formats. Cette année, on avait par exemple des ateliers, donc on peut passer 4 heures dans une salle avec quelqu'un qui a écrit un livre sur un thème qui nous intéresse. Ensuite, on peut aller écouter plutôt des speeches un peu, des présentations un peu magistrales, donc où il y a quelqu'un qui va présenter son idée pendant 20 minutes. Et puis aussi, on avait des panels, des discussions qui permettaient des débats un petit peu plus contradictoires, un petit peu plus animés. Donc il y a tous ces formats qui permettent de passer les idées, d'en créer d'autres, de réveiller. Je pense que vraiment, nous, ce qui nous intéresse à LIFT, c'est de faire discuter les gens. Et on croit beaucoup à un phénomène qui a un nom un peu barbare, qu'on appelle la cross-pollinisation, quelque chose comme ça, je crois, et qui consiste en fait à aller chercher des idées pour son domaine. Moi, je travaille dans les nouvelles technologies, mais aller chercher des idées pour mon domaine dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Et nous, ce qu'on trouvait fascinant, c'était de mettre, par exemple, des banquiers face à une bonne sœur, et de se dire, les banquiers vont apprendre quelque part de cette bonne sœur que, une organisation, elle a beau être millénaire, elle peut avoir des opportunités dans les nouvelles technologies. Donc, il y a énormément d'idées qui ressortent de ce processus.
C'est celle qui gère le site du Vatican.
Voilà, quand c'est celle qui gère le site du Vatican, mais c'est vrai que c'est un truc assez fascinant. Et puis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a finalement à apprendre d'une bonne sœur qui travaille au Vatican depuis 95 à mettre le Vatican en ligne, on a beaucoup de choses à apprendre. Il y a d'ailleurs une interview vidéo qui a été faite d'elle par Robert Scoble, qui est un grand blogueur, puis qui est assez fascinante, où on lui pose plein de questions, puis on se rend compte que elle a un pied dans toutes ces nouvelles technologies, donc elle a des idées un petit peu plus neuves par rapport à, puis on sent qu'elle, en même temps, elle vient d'une institution, donc qu'elle essaie de les éduquer, de passer certaines choses, et c'est assez fascinant, et puis c'est une leçon de gestion du changement, par exemple, qui est assez intéressante. Donc, je pense que les idées arrivent à LIFT via les gens, et puis ensuite, tout se mélange, on crée des nouvelles, en fait.
Et quel a été le workshop ou l'atelier de discussion qui a suscité les débats les plus animés?
Alors malheureusement, quand on est l'organisateur, on n'a pas trop le loisir de participer, donc nous, on était plutôt devant les salles en train d'aiguiller les gens, mais il y a eu tous les workshops ont très bien marché, ça a été le gros pari qu'on a fait et que je pense qu'on a gagné, où on a eu des workshops sur des thèmes aussi variés que Second Life, dont on va parler après, le Nicolas Nova et William Cocaine, qui est un professeur de prospective, ont fait tout un workshop sur imaginer la ville du futur. On a eu un workshop où les gens sont allés dans les rues de Genève avec des GPS pour faire une carte open source. C'est-à-dire qu'en fait, on les suit à la trace, puis ensuite on dessine une espèce de carte à partir des traces qu'ils ont laissées. On a eu des workshops sur comment évaluer l'impact d'un projet dans une entreprise. On a eu des workshops sur toutes ces technologies, ces applications sociales. Donc il y a eu énormément de choses, et moi, à chaque fois que je suis allé dans les salles, tout était plein, et puis les gens étaient assez ravis. Si je devais en sortir deux, je crois que le premier, c'est celui sur la ville du futur, qui a très très bien marché, et dont beaucoup d'idées sont sorties. Et l'après-midi, celui sur les applications sociales, donc Stowey Boyd, qui est un des grands spécialistes de toutes ces nouvelles applications un peu collaboratives et de leur application dans les entreprises, a fait un workshop qui a beaucoup appris aux gens. Lui, sa théorie, c'est que tout ce qui est basé sur le côté social doit avant tout partir de l'ego. C'est-à-dire que lui, il dit que une application sociale, c'est une application qui met en avant la personne en tant qu'individu. Donc c'est un peu contradictoire au départ. Mais finalement, un groupe ne fonctionnera que quand chaque personne y trouvera son compte à elle. Et en termes informatiques, c'est assez impressionnant, c'est assez intéressant pour tous ces systèmes comme MySpace, YouTube, etc.
Alors dans de nombreuses discussions, aussi bien dans les médias, on peut toujours, il y a très longtemps que cela existe, bien sûr, on parle de futurisme, on nous promet toujours une ville du futur absolument, je ne vais pas dire géniale, mais incroyable. Finalement, il s'agirait plutôt d'améliorations quotidiennes qui se font grâce à l'informatique et qui permettent, je pense évidemment au GPS qui facilite la vie, mais en même temps toutes sortes d'autres. On en avait parlé avec Nicolas Nova, de la géolocalisation. Je crois que maintenant ça marche très bien au Japon. Vous vous promenez dans la rue avec votre portable et au fil de votre déambulation, vous pouvez recevoir des messages, des boutiques devant lesquelles vous passez, des programmes de ciné, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a des projets en Suisse? Est-ce que petit à petit ça avance?
Par rapport à la géolocalisation, je crois qu'il y a des projets. Ouais, Nicolas Nova parlait de ce projet où on pouvait suivre son chien à la trace. Il y a pas mal de choses. Je sais qu'en Suisse, il se passe pas mal de choses aussi autour du RFID, donc l'identification des objets par des petites puces plutôt que des codes barres, qui va permettre ensuite de suivre les objets. Il y avait hier, je parlais avec quelqu'un qui me parlait d'une expérimentation dans un hôpital. Donc l'hôpital pouvait comme ça savoir où étaient ses lits. C'est un grand problème dans un hôpital de savoir où étaient les lits, quand est-ce qu'ils ont été stérilisés, etc. Donc c'était assez. Il se passe pas mal de choses. Mais c'est vrai, je reviens juste à ce que vous disiez. Je pense que un des messages qu'il y a derrière Lyft, c'est que la technologie nous améliore notre vie, mais elle nous la complique aussi. Et c'est des choses dont on a voulu parler, parce qu'on essaie d'être réaliste. Nous, on veut comprendre l'avenir, et l'avenir, ça, comprendre cet avenir, ça veut aussi bien dire comprendre ce qui est positif que ce qui est négatif. Donc, on insiste beaucoup sur le fait que, voilà, on n'est pas enthousiaste aveugle, et on a parlé aussi des problèmes créés par la technologie, notamment au travers de donc toute une discussion sur la surcharge technologique, l'invasion un petit peu de la technologie dans nos vies. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui est ressorti à une ethnologue de Swisscom, Stefana Broadbent, qui disait que on croit tous qu'en fait c'est notre travail qui est en train d'envahir notre vie privée, et elle pense l'inverse. Elle dit que c'est plutôt nos vies privées qui sont en train d'envahir notre travail, notre temps de travail. Qu'elle voit plus de gens qui sont en train d'envoyer des SMS à leur
ce qui pose des problèmes aux entreprises, paraît-il.
Ce qui remet en cause certaines façons de travailler, certaines règles, en effet, qui posent tout un tas de questions éthiques, questions business, etc. Mais c'est assez intéressant de parler, d'aborder aussi ces problèmes. Et on a aussi, bien sûr, parlé de la fracture numérique, donc qui est un des grands sujets dont il faut qu'on parle actuellement. Il se passe vraiment beaucoup de choses, bien par rapport à la géolocalisation. Il y a tous ces soucis par rapport à la protection de la vie privée, quoi. C'est sûr que c'est très bien de savoir où sont les autres, mais ça pose à certains moments ça va créer tout un tas de nouveaux problèmes dans notre société.
Alors vous le dites, justement, pour qu'une entreprise sache que l'employé, le collaborateur envoie des mails privés, il faut qu'il y ait surveillance. Donc c'est un des sujets, je crois, qui suscite beaucoup d'opposition. D'un côté, la technologie nous permet d'être connectés, elle nous facilite la vie, énormément d'avantages que l'on vient d'aborder. Elle est aussi considérée comme un moyen d'utiliser une démocratie beaucoup plus directe. Mais d'un autre côté, il y a aussi une censure possible et une surveillance totale, grâce notamment aussi avec les puces et autres bracelets. Et est-ce que ce problème de la surveillance a été quelque chose d'abordé dans les workshops?
Alors pas dans les workshops, non. On n'a pas vraiment parlé de.
En fait, la. Senti que parmi les participants, c'était un sujet qui les intéressait.
Alors c'est clairement un sujet qui intéresse les gens. Donc nous, on est obligé de faire un certain nombre de choix. C'est-à-dire qu'on n'a que 2 jours, on a de la place pour une trentaine de personnes, et donc on a des thèmes qu'on peut pas aborder. Et moi, je tiens absolument à aborder toute cette problématique de protection de la vie privée, dont on avait parlé en 2006 avec Emmanuel Richard, mais aussi de sécurité, encryptage des données, etc. Donc cette année, on n'en a pas encore parlé. Je pense qu'on va le faire dans les années à venir, mais clairement, on sent que c'est un souci qui est présent. Maintenant, de nouveau, la réponse, c'est ni blanc ni noir, quoi. Il y a vraiment du. En effet, on peut être plus surveillé, mais en même temps, moi, je suis très optimiste pour tout ce qui est politique, parce que je pense que la base de la démocratie, c'est l'accès à l'information. Et là, c'est en fait plus ou moins impossible de bloquer l'accès à l'information. On a vu avec la Chine, où ils ont quelques points d'accès, a priori, qui leur permettraient de contrôler tout ça, mais c'est plus possible. Pourquoi ? Parce que les filtrages se font sur des mots-clés. C'est très facile pour une communauté d'inventer un mot de remplacement, entre guillemets, où j'avais parlé avec un spécialiste de la Chine qui me disait qu'en fait, le code, c'était qu'il remplaçait certaines lettres par des chiffres.
De la même façon qu'on ne met plus @ sur les sites, exactement, mais on met @.
Pour éviter le spam, etc. Donc justement, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif fondamentalement. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, il y a tout un tas d'inquiétudes. On donnait cet exemple d'un employé dont l'employeur avait vu qu'il avait fait une recherche sur le mot cancer et sur un type de cancer très précis. Puis il s'est dit, ça c'est quelqu'un qui est probablement malade mais qui en parle pas, et du coup qu'il remercie. Bon, là, c'est des problèmes dans l'autre sens. Donc, on a aussi, au milieu de tout ça, faut mettre l'éducation des gens, faut que chacun apprenne à utiliser les technologies, à se protéger. C'est vrai qu'actuellement, on voit beaucoup d'usages complètement inconscients de la part des ados, par exemple. qui s'exposent complètement sur les sites
mais communautaires. Mais depuis peu, il y a un site pour nettoyer ces pages. On en parle beaucoup maintenant.
Ouais, enfin, c'est difficile de dire lesquelles doivent être nettoyées ou pas. Ça pose plein de problèmes technologiques aussi. Je sais pas comment est-ce que de Suisse on peut aller effacer une page sur MySpace. Ça me semble impossible techniquement. Donc il y a tout un tas de nouvelles questions.
Alors parmi ces questions, c'est-à-dire d'envoyer un fichier sur MySpace ou ailleurs, c'est quelque chose qui est fait parfois lors d'une blague et qu'on peut regretter après en tant que travailleur. Cela pose un problème, je crois aussi, qui est identifié, qui est celui de l'immédiateté des rapports, c'est-à-dire avec les mails, on ne prend plus le temps comme une lettre que l'on écrive à la main. Ça part tout de suite, ça peut partir sur un sentiment de joie, de peine ou autre, et puis finalement le contact ne se passe pas bien.
Tout à fait. Alors, il y avait une étude intéressante là-dessus par rapport à l'email qui disait que, en fait, dans 50% des cas, on ne comprenait pas bien, 50% c'est énorme, on ne comprenait pas bien l'intention de l'envoyeur. C'est-à-dire qu'on pense qu'un email est agressif, en fait, l'envoyeur était juste pressé. Donc il faut être de nouveau prendre conscience de ça, mais c'est quand même des outils qui sont relativement nouveaux. Il y a 10 ans, on travaillait sans email. Et il faut que les gens s'éduquent, il faut qu'il y ait des normes un peu sociales qui émergent.
Éviter les blagues, par exemple, je crois, elles sont mal comprises.
Alors ça dépend. Il y a des blagues qui, ça dépend de la blague, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui fait assez peur. C'est le côté Internet a une mémoire sans fin quasiment, et il y a des choses qui ont pu être écrites par moi et que je ne pense plus, ou il y a des choses qui ont pu être écrites en mon nom par quelqu'un qui a voulu faire une blague, et ça pose tout un problème. C'est vrai qu'on a tous perdu un petit peu le contrôle sur notre identité, quelque part.
Nous sommes toujours avec Laurent Haugue pour parler, bien sûr, de Lift, puisque c'était la conférence qu'il a organisée, mais surtout de tous les changements que les nouvelles technologies provoquent chez nous. Il y en a une qui est très importante, dont on parle beaucoup, mais je ne sais si véritablement on s'aperçoit des effets qu'ils ont sur l'économie. On dit même que c'est la disparition de tout un secteur. Laurent Haugue, c'est cette possibilité qu'a le consommateur d'intervenir sur la conception d'un produit. Je crois qu'il y a des marques comme Lego, par exemple, où si vous avez une idée de quelque chose, vous pouvez, par l'Internet, accéder au site du producteur, donner vos idées, et si c'est retenu, c'est construit. C'est-à-dire que c'est directement, on ne peut pas parler mieux de l'usine au consommateur.
Ça fait, ouais, c'est un nouveau phénomène qui émerge que Xavier Contas appelle l'économie directe et qui est assez fascinant, où en fait on se rend compte qu'il y a des entreprises qui commencent à confier une certaine partie d'un processus au client. Donc que ce soit IKEA qui décide de donner pour baisser ses prix, de laisser le client faire le montage. Que ce soit Lego qui se rend compte que les millions de clients qu'ils ont sont toujours plus créatifs que même les meilleurs, je sais pas comment on peut dire, mais constructeurs de Lego qu'ils auraient en interne. Donc ils commencent à dire aux gens, donnez-nous des idées, aidez-nous. C'est un phénomène qui est de nouveau permis par les nouvelles technologies, parce que les nouvelles technologies permettent ces interactions many to many, en fait, enfin, qu'énormément de gens rentrent en contact avec énormément de gens, donc qu'on puisse un peu tous se mettre ensemble, avoir des idées ensemble, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose d'économiquement en plus qui a pas mal de sens, quoi, parce que si on confie aux personnes qui achètent le produit la conception du produit, on a quand même une chance que ça leur convienne un petit peu mieux, quoi. C'est un phénomène qu'on appelle la co-création.
Oui, cette co-création dans l'économie directe, elle va demander probablement une période d'adaptation, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y a toute une panoplie d'intermédiaires qui va disparaître. Le commerçant classique est menacé.
Tout à fait. Je pense qu'il y a pas mal de... Pensez aux agences de voyage. D'un seul coup, il y a un site comme kayak.com, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site absolument incroyable quand on prend l'avion, où on met deux destinations, donc kayak vraiment comme un kayak.com, on met deux destinations, et puis le site va chercher l'ensemble, se connecte auprès des sites de quasiment toutes les compagnies aériennes du monde et vous ramène le meilleur prix. On peut choisir si on veut faire un stop, pas faire de stop, on peut choisir à quelle heure on part, c'est absolument incroyable. En un clic, on peut avoir l'offre mondiale sur un certain vol, sur un certain voyage. Donc quelle est ensuite la valeur ajoutée d'une agence de voyage dont, une fois que Kayak est sorti, c'est plus que ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire il fallait qu'on aille là-bas, ils tapaient leur code sur l'ordinateur, ça permettait de trouver des vols et tout. Ben maintenant, ce secteur-là doit se réinventer parce que sa valeur ajoutée n'existe plus, a été remplacée par un nouveau système, un nouveau business model. Mais je pense que à chaque fois, en étant un petit peu créatif, on peut retrouver de la valeur ajoutée ailleurs. Donc il y a des intermédiaires qui vont disparaître, mais qui doivent un peu se réinventer. Il y a toujours moyen de se réinventer. Typiquement, une agence de voyage, maintenant, doit plus, à mon avis, s'orienter dans le côté conseil, dans quel pays aller, le côté connaissance locale, aider les gens à se débrouiller dans les pays où ils vont.
En dehors de l'agence de voyage, vous pourrez aussi commander votre steak coupé à 2 cm à une shop qui sera quelque part dans un centre de Suisse romande. Et vous êtes donc.
Ce sera difficile à faire avec un site internet.
Donc si vous pouvez commander, puisque je pense à e-shop ou des choses comme cela.
Ouais.
Et qui finalement.
En tout cas, il y a des solutions et ce qui est. En effet, il y a tout un tas d'intermédiaires qui disparaissent, mais je pense que ça fera quelques dégâts à court terme, mais dans le long terme, c'est plutôt une bonne chose. En général, c'est des intermédiaires qui avaient une valeur ajoutée qui n'était pas énorme et qui était un peu. Dont le business reposait sur des aberrations. C'est pas normal que pendant des années, ça a été aussi compliqué qu'il faille connaître des petits codes un peu spéciaux, secrets pour aller chercher des billets d'avion. C'est pas normal, alors que c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Donc voilà, je reviens sur l'exemple des agences de voyage, j'ai rien contre les agences de voyage, mais juste pour dire, il y a vraiment une espèce de tri qui se fait un petit peu entre gens qui amènent de la valeur aux consommateurs et ceux qui en amènent moins. Mais et dans l'absolu, en tant que consommateur, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que il y a moins d'intermédiaires, parce que les produits sont plus accessibles. Et en l'occurrence, maintenant, a priori, plus proche de nos besoins. C'est vrai que en tant que personne, on a fait tout un débat à Lyft sur le fait que la société est en train de se repositionner sur l'individu. L'individu redevient le centre de la société.
D'ailleurs, pourquoi c'était le magazine Time avait proclamé que vous êtes
tout à fait la personnalité de l'année en 2006. Voilà, ça a été un coup de pub absolument incroyable qu'ils ont fait. Ils sont arrivés à point nommé. Et il y a des millions de gens qui se sont pris pour la personnalité de l'année. C'était vraiment très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se passer où l'individu, le citoyen reprend le pouvoir. Donc c'est vrai dans la politique où on voit que en France, on parle beaucoup du fait que le non au référendum a été un peu initié, tout ce mouvement du non a été un peu initié par un blogueur qui est quelqu'un qui a juste mis en avant certains arguments et puis ça a été après repris et puis du coup ça a abouti à un non dans un pays qui était très pro-européen. Donc c'est vrai dans la politique, c'est aussi vrai dans l'économie où là le client maintenant on peut plus ignorer l'opinion des clients parce que les clients ont peut-être des blogs qui sont lus par des centaines de personnes et puis décevoir un client c'est peut-être potentiellement se donner une image hyper négative auprès de milliers de personnes. Donc il y a quelque part quelque chose de très positif et dans ce processus de création des produits, moi je trouve ça extrêmement bien. Par exemple, prenez l'exemple de Microsoft qui a impliqué maintenant ses clients dans la conception de ses produits, ça évite qu'on reçoive comme ça un produit Microsoft tombé du ciel, fait par quelques experts mais qui n'ont pas forcément mes problèmes à moi. Et donc maintenant j'ai mon mot à dire avant que les choses sortent, a priori elles sont plus en phase avec mes besoins.
Alors il semble que dans notre imagination, il y ait une différence entre la perception du consommateur et celle de l'entreprise, puisque nous assimilons cette volonté de faire participer le consommateur à la conception d'un produit, on l'assimile à une économie, alors qu'en réalité les fabricants, eux, pensent que c'est une meilleure productivité, donc ce serait plutôt un avantage positif, enfin un avantage, pardon, pour le pléonasme, mais une avancée dans le sens de qualité.
À mon avis, c'est un de ces phénomènes où tout le monde y gagne, en fait. Et donc, on a l'habitude, en général, que quand une entreprise y gagne, le client y perde. Et à mon avis, là, c'est un de ces phénomènes qui reflète un peu cette nouvelle réalité économique où il y a moyen de mieux gagner sa vie, mais sans forcément manquer de respect aux clients ou faire une économie sur son dos. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très très positif pour tout le monde, à mon avis.
J'ai relevé une phrase, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec elle, ils disent « On quitte en quelque sorte une économie fondée sur les savoirs du producteur pour une économie des savoirs du client. »
Alors ça, c'est le cas un petit peu extrême, mais c'est tout à fait... disons que le curseur, où va se mettre le curseur, je pense que le savoir sera toujours partagé. C'est vrai que Xavier Contès, qui a écrit cette phrase, disait que... Prenez l'exemple de l'iPod. C'est vrai que l'iPod, c'est énormément de design, d'années de savoir-faire venant d'Apple. Et ensuite, moi, c'est vrai que je peux offrir un iPod à ma grand-mère. C'est un produit qui est vide pour elle, parce qu'elle ne saura pas le brancher à l'ordinateur, aller télécharger des chansons ou prendre ses CD, les transformer en MP3 et tout. Donc là, le consommateur doit prendre le relais et avoir un certain savoir pour compléter le produit et en faire ce qu'il veut. Donc ça permet aussi à chacun de recevoir un produit qui est standard et d'en faire un produit qui est unique. Et voilà, là c'est un petit peu une phrase qui provoque, parce que jamais, je pense que un iPod c'est quand même un produit qui est extrêmement abouti, qui dans lequel il y a beaucoup de design, beaucoup de savoir. Donc on sera toujours un petit peu entre les deux, en train de partager. Mais c'est bien d'avoir son mot à dire en tant que citoyen. Avant, on ne nous demandait pas notre avis, on nous donnait des produits, c'était comme ça. On avait très peu d'alternatives. Et maintenant, ben, on a enfin repris beaucoup plus de pouvoir.
Alors je vois que vous n'avez pas invité votre grand-mère à Lyft, ni lui donner des cours du soir pour apprendre à servir d'un iPod, ni lui offert d'ailleurs. Mais là, il me semble que vous abordez le problème de la fracture numérique.
Tout à fait, la fracture numérique, on en a parlé, et on a parlé de deux fractures numériques. Il y a vraiment une fracture numérique...
Financière est importante, non ?
Il y a une fracture numérique, comme il y a une fracture économique entre les pays du Sud, les pays du Nord, etc. Mais il y a aussi une fracture numérique locale, où c'est vrai qu'on oublie trop souvent, mais ben, en Suisse, il y a tout un tas de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans les pays européens aussi. Et ces gens-là sont aussi exclus de... tous ces mouvements technologiques et donc de tous les bienfaits éventuels que peut avoir la technologie. Et donc il y a vraiment une fracture, il y a deux fractures dont il faut qu'on parle. Et c'est vrai qu'on a abordé le sujet avec des gens vraiment très bien, on a eu un panel assez passionnant sur la question.
Mais en même temps, cette fracture, en dehors de cette fracture numérique, il y a aussi la dépendance. Je veux dire, il fut un temps, ou qui est encore actuel, où l'on peut toujours servir d'un vieux livre, d'un outil. Maintenant, il faudra, pour travailler avec les moyens informatiques, il faudra pratiquement être connecté tout le temps, ce qui supposera aussi, bien sûr, un abonnement à des outils. Ce peut être des outils Word et autres, jusqu'à des outils plus perfectionnés, puis simplement la collection. Et on sera donc, à partir du moment où il y a un problème économique, on est déconnecté. On n'existe plus.
Je pense qu'il y aura... Ouais, exactement. On peut très vite être exclu et c'est un domaine qui va tellement vite, c'est aussi assez stressant pour nous en tant que professionnels de ce domaine de se dire voilà, je pars un mois en vacances, peut-être en un mois il va se passer tellement de choses que je vais rater, que je vais être largué. C'est vrai que c'est un facteur un petit peu inquiétant, mais par rapport à l'invasion de la technologie dans nos vies privées, moi je pense que dans nos vies quotidiennes, en fait, je pense qu'il va y avoir un retour en arrière, en fait. La technologie est allée trop loin. On a été trop enthousiastes tous avec ces nouveaux outils et il va maintenant y avoir on va repousser un petit peu tout ça. Il y a pas mal d'exemples qui se montrent, mais c'est vrai que je pense à Nicolas Nova qui était venu avec moi, qui me disait que des fois lui, il se met dans le train pour aller, il a son abonnement général, il va à Saint-Gall, il revient juste pour être dans un environnement où il n'est pas connecté tout le temps, il n'est pas interrompu, etc. Donc c'est un peu à chacun de s'éduquer. De nouveau, on est un peu les cobayes de tous ces outils. Nous, on est la génération qui les reçoit et qui doit un peu inventer toutes les règles qui vont avec. Donc il y a un peu de casse, il y a des gens qui vont trop loin, il y a des gens qui au contraire refusent de façon un peu abusive d'utiliser ces outils. Et il y a une norme un peu qui va s'établir, mais je pense pas que c'est hors de question que les livres disparaissent par exemple parce qu'il y a des ordinateurs. C'est marrant, c'est un peu un phénomène dans l'histoire qu'on voit souvent quand il y a une nouvelle technologie un peu disruptive comme ça qui arrive. On pense toujours qu'elle va remplacer celle d'avant. On a pensé que la radio allait tuer le disque, on a pensé que le DVD allait tuer le cinéma, etc. Et puis à chaque fois, en fait, on se rend compte que ces innovations, elles trouvent une place, elles font juste un peu jouer les plaques qui se repositionnent, en fait.
Pourtant,
et puis en général, le gâteau grandit.
Il y a eu un projet qui a été discuté à Lyft, c'était BitTorrent for Books, BitTorrent, pardon, et qui était donc... cette possibilité de commander le livre, de l'imprimer chez soi, de supprimer tous les intermédiaires, c'est-à-dire que l'auteur n'avait pas besoin de sortir un livre, c'était donc uniquement sur un fichier numérique.
C'est Bookmooch de John Buckman, je connais pas vraiment les détails, mais quand on parle toujours des écrivains, des artistes, on pense toujours un peu, on a toujours ces références, on pense à Madonna quand on pense à l'industrie de la musique, et on oublie qu'il y a tout un tas de gens qui font ça avant tout par plaisir, pour s'épanouir personnellement, et que ces gens jusqu'à présent n'avaient pas accès à la distribution, ne pouvaient pas distribuer leurs disques parce que ça coûtait cher de faire un disque, ne pouvaient pas imprimer leurs livres parce que ça coûte cher d'imprimer un livre. Et tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles, c'est que maintenant, en tant que... quelqu'un qui écrit sa biographie, comme certaines personnes âgées le font, et peut-être ça va atteindre une audience de 150, 200 personnes, ce qui jamais n'aurait intéressé un éditeur, mais qui permet quand même à la personne d'avoir ce qu'elle voulait en s'engageant dans cette démarche, c'est-à-dire un retour personnel de quelqu'un qui lui dit c'était bien, etc. Donc c'est bien qu'il y ait cette un peu disparition de certains intermédiaires et que n'importe quel créateur finalement puisse maintenant se faire entendre.
C'est ce que nous disait Dorian Gray, qui est un musicien, il y a peu de temps dans ce studio, et qui disait que ces blocages étaient simplement faits, enfin n'embêtaient que les milliardaires, le téléchargement, mais que lui espérait qu'on lui vole sa musique, puisqu'elle serait ainsi connue.
Tout à fait, je crois que le pire qui puisse arriver à un artiste, c'est de ne pas être téléchargé. Ça veut dire vraiment que son travail n'intéresse personne.
Donc le téléchargement au départ serait une promotion, et qui pourrait être payé ensuite.
Il y a plusieurs modèles économiques possibles. Il y a une étude qui a été faite par Harvard, il y a 2 ans je crois, qui disait que le téléchargement ne nuisait pas à la vente de disques. Donc on pense tous que le téléchargement, on pense que c'est automatique, téléchargement égale moins de ventes, mais c'est pas prouvé. Il y a des études qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Et ensuite il y a tout un tas de modèles économiques. Est-ce que on pourrait pas imaginer une forme de souscription à toute la musique mondiale qui soit dans un espèce de pool et qu'ensuite on compte le nombre de téléchargements, donc chacun paierait $15 par mois, puis ensuite on compte le nombre de téléchargements, puis on rémunère les artistes en proportion de ce qui a été téléchargé. Est-ce que finalement la musique est un bien ? Avant la musique, créer un morceau de musique c'était compliqué, fallait aller dans un studio, avoir un studio ça coûtait des dizaines de milliers de francs, fallait être entouré de professionnels et tout. Maintenant la musique, moi avec mon Mac, je peux faire une chanson en 2 jours. Ça sera peut-être pas la même qualité, mais je peux le faire. Alors est-ce que le prix en soi de ce qu'est la musique ne devrait pas baisser ? Est-ce que finalement la musique c'est pas une occasion de se faire connaître pour gagner sa vie en faisant des concerts, c'est pas exclu. Donc moi je suis très perplexe par rapport à tout ce qui s'est passé là dans l'industrie de la musique, ouais, tous ces procès, etc. Je pense que là il y a un changement de fond dans la façon dont doit fonctionner toute cette économie et il y a plein de choses on est encore en train d'explorer, mais un modèle cohérent va émerger.
Il n'y a pas que la musique, il y a aussi d'autres données, mais que ce soit comme la radio ou la télévision. Je peux vous annoncer, par exemple, ça va être annoncé ce soir, je crois, sur les chaînes de télévision. Paraît-il que c'est une première en Suisse, mais il y a un mouvement politique qui va créer sa première télévision. Et ils vont présenter le premier téléjournal à partir de demain, chaque semaine, sur leur site internet. Il sera composé autant d'interviews, de dossiers, de micro-trottoirs, d'informations variées et de scoops. C'est donc véritablement une possibilité. Tout le monde peut véritablement, avec très peu de moyens, je pense qu'il suffit d'une petite mini-caméra et d'un micro pour enregistrer cette émission.
Tout à fait, ouais. Et c'est quelque part la porte ouverte à... maintenant, la technologie avant brider le talent, si vous voulez. Maintenant, le vrai égalisateur, ça va être le talent. Si ce que ces gens-là font est intéressant, ils vont sortir du lot. Puis ça, on peut pas exclure le fait qu'ils aient une audience plus grande que
la TSR, par exemple.
Ou que, bon, la TSR part quand même avec beaucoup d'avance, mais que, je sais pas, les Monts Bleus ou des médias qui ont une audience un peu plus restreinte à Genève. Donc c'est un phénomène qui est très intéressant.
Que le meilleur gagne, c'est y a pas de meilleure illustration.
Ben, quand on parle du talent des gens et des idées des gens, de la créativité, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Ouais. Vous pensez qu'on est en retard actuellement, puisque ce parti politique prétend être le premier à rendre ce service? Pourtant, il y a déjà des partis politiques, on en parlera tout à l'heure avec Patricia, qui a préparé le projet de Second Life, mais j'ai vu que maintenant, les partis politiques doivent être présents sur ces sites virtuels.
Il y a énormément d'enjeux sur le monde en ligne, quoi, que ce soit les sites en 3D, que ce soit les blogs, mais vu que maintenant les gens passent tellement d'heures en ligne à chercher des informations, c'est clair que les partis politiques, c'est un enjeu majeur pour eux d'être présents à cet endroit-là et d'essayer de capter l'attention des gens pour passer leur message. Est-ce qu'un journal télévisé sera la bonne forme? C'est un petit peu difficile à dire. Mais c'est clair que c'est un enjeu majeur. On voit d'ailleurs dans la campagne américaine il y a deux ou trois ans, il y a eu énormément de choses autour des nouvelles technologies. Maintenant, ça arrive en France. Il y a tous ces enjeux avec les candidats qui bloguent, les candidats qui se font piéger sur des vidéos YouTube. Il y a tout un tas de choses. Donc oui, c'est tout à fait légitime. Bah, l'attention des gens se déplaçant sur les systèmes en ligne, la politique se déplace elle aussi.
Et d'ailleurs, je crois que d'après une étude qui a été publiée par l'Ofcom, parmi les 16 à 24 ans, c'est la tranche d'âge qui regarde de moins en moins la télévision au profit justement d'autres formes d'informations qu'ils prennent sur Internet, c'est-à-dire que l'Internet au détriment de la télé.
Au détriment, et la télé est en train de comprendre, la télé est en train de se formater aussi pour être consommable entre guillemets par Internet. Par exemple, la TSR vient d'annoncer des chiffres absolument records d'audience pour son site et vient de sortir un service de vidéo à la demande, donc qui permet à ce jeune public qui a quelque part aspire au même contenu, mais sous une forme différente, bah, qui permet à ces gens-là de consommer, entre guillemets, j'aime pas trop ces mots, mais d'accéder à ce contenu selon ses modes de consommation. Quoi.
Donc, Laurent Hawk, nous n'allons pas faire le tour de tous les problèmes ou des avantages d'Internet. Il y a aussi un sujet, mais que nous aborderons certainement une autre fois, qui est celui, pas simplement des droits d'auteur, mais de la propriété de la connaissance, de tout ce qui peut être mis à tout point de vue, de la culture elle-même, à qui appartient-elle, qui l'invente, ce sont tant de sujets. Bien sûr, l'année prochaine, Lift aura lieu.
Voilà, ça continue, et on verra de quel thème on va parler. Donc là, on retourne un petit peu en phase de captation, essayer de comprendre toutes les choses qui se passent. Et puis, d'ici quelques mois, on va définir un programme et on se reverra à ce moment-là.
Merci, Laurent Hawk.
Merci.